Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Vous l'attendiez depuis 2 ans et demi, Adeline Dieudonné revient avec un nouveau livre, c'est dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte, C'est deux idiots de Bouvard et Pécuchet aujourd'hui, de Gustave Flaubert. Nous visiterons une bibliothèque, bien sûr, elle est un peu particulière aujourd'hui, c'est celle du Guide du Rotard, on va voyager. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, et ce grand enfant de Victor Dolan fermera la boutique avec son roman Jeunesse, évidemment. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Elle est de retour, au nom de Zeus. Après ses voyages dans le temps, dans la vraie vie, en 2018, vous étiez nombreux à attendre son deuxième livre. Eh bien, le voilà. Kérosène, toujours aux magnifiques éditions de l'Iconoclaste. Magnifiques aussi les couvertures. À chaque fois, là, on voit une station-service dans la nuit, éclairée quand même par une lumière un peu blafarde de station-service et tout un tas de personnages. Les personnages, évidemment, que l'on retrouve dans ce livre, qui se croisent et se rencontrent en passant toujours par cette station-service. Et bonjour, Adeline Dieudonné.
Mais bonjour, Nicolas Carreau.
Ça fait plaisir. Vous avez reconnu la musique? Ça vous a plu? C'était Retour vers le futur?
Mais oui.
Je l'avais passé déjà quand je vous avais reçu pour votre premier roman, La vraie vie. Je rappelle, énorme succès. On approche les 300 000 exemplaires. Pour ceux qui ne sont pas familiers des chiffres de vente, c'est gigantesque. Ça n'arrive pas pour un premier roman, normalement. Mais vous étiez où tout ce temps-là? C'est presque 3 ans.
Mais non, 2 ans et demi. 2 ans et demi.
Ouais, mais ça passe pas vite.
J'étais chez moi à essayer d'écrire quelque chose qui fasse plaisir aux gens et qui ne vous déçoive pas, monsieur Nicolas Carreau.
Parce que c'est dur d'écrire un deuxième roman après un tel succès. On a un peu de pression, tout ça.
Bah non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si, non, c'est pour rien vous cacher, j'étais sur un roman jusqu'à il y a un an que j'ai arrêté. Parce qu'il parlait de collapsologie et de survivalisme et que c'était trop en lien avec l'actualité. Enfin, l'actualité rattrapait le roman.
Collapsologie, c'est l'idée que tout va s'effondrer à cause du réchauffement climatique.
Que tout va s'effondrer dans l'absolu, pas spécialement à cause du réchauffement climatique, mais oui.
Mais qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ah, je peux pas, c'est trop proche, pas assez proche du premier, je vais décevoir.
Exactement. Oui, et puis j'écrivais avec l'impression d'avoir 300 000 perdus au-dessus des épaules qui scrutaient le moindre mot qui sortait. Donc c'est très paralysant. Et donc j'ai arrêté de travailler sur ce roman et je me suis dit ah, je vais m'amuser, je vais écrire des nouvelles, mais vraiment pour le plaisir. Et sans du tout me douter que ça serait ça mon prochain livre. Et c'est comme ça que Kérosène est né. Et donc finalement il est né très très vite.
Oui, vous vous êtes bien libéré des 300 000 perdus qui regardent par-dessus votre épaule parce que vous y allez franchement. On va y revenir. Donc Kérosène, c'est un livre qui se passe en 2 minutes. Ça commence à 23h12 dans la station service. Ça se termine à 23h14, même endroit. Mais bien entendu, il y a des flashbacks pour tous les personnages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même un mot sur la station service. Moi, à titre personnel, je suis un grand fan des aires d'autoroute et des stations service pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui s'y croisent et qu'on peut observer tous ces gens-là. C'est votre cas aussi?
Tout à fait. Et puis la sensation que tout peut arriver. Surtout un soir d'été quand il fait chaud et que les corps sont un petit peu libérés aussi de la contrainte des vêtements et du froid. Non, c'est vraiment, c'est des atmosphères que j'adore et avec aussi, je crois, une influence anglo-saxonne, américaine, une espèce d'image d'épinal comme ça, des grandes routes dans les déserts américains, même si là, la station-service se trouve en Belgique.
Puisque vous êtes belge, je ne l'ai pas précisé. Il y a beaucoup de personnages, Shelley, Victoire, Loïc, Alika, Sébastien, Olivier, Red Apple, alors lui c'est un cheval, Julie, Juliane, Joseph, Monica, Antoine, Gigi, j'en oublie peut-être un ou deux. Juste, fausse ouverture, c'est une question que j'aime bien poser aux écrivains, comment vous choisissez les noms des personnages? C'est assez compliqué en fait.
C'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué et en même temps, du coup j'essaie de pas trop réfléchir et je prends un peu la première idée qui me vient. Ça m'arrive a posteriori de changer le nom d'un personnage, mais ici je regarde et je pense que je n'ai changé le prénom de personne.
Ah, vous avez une liste avec tous vos personnages?
Mais oui, parce que comme c'est le début et que je commence à, quand je commence à en parler, j'ai encore besoin de mon petit pense-bête sous les yeux, ouais, de les avoir tous. Parce que c'est vrai que, autant la vraie vie c'était simple d'en parler parce que c'est un personnage et il y a une unité très forte. Ici, comme c'est un feu d'artifice de personnages, voilà, je vais être sûre d'oublier personne.
Je ne l'ai pas dit, mais c'est le titre à chaque fois des différents chapitres. Et ce qui est assez fou, et donc qui montre que c'est assez bien réussi, c'est que effectivement, vous avez juste la liste de noms. Mais je suis sûr que comme moi, dès que vous voyez un de ces noms, paf, tout à coup, toute l'histoire vous revient.
Oui, il y a un côté pop-up. Ouais. Ouais, complètement. Ouais.
C'est fou quand même d'arriver à, par le nom d'un personnage, redonner toute la couleur d'une histoire et même l'intrigue de chacune de ces histoires, juste avec le nom de ces personnages. Est-ce que vous avez peaufiné ça justement? Vous répétez beaucoup les noms à chaque fois de ces personnages-là? Vous voulez qu'ils s'ancrent?
Ah ben non, pas nécessairement. J'ai pas du tout calculé ça. Non, par contre, c'est sûr que j'avais envie que chaque nouvelle, enfin en tout cas chaque histoire, et son propre univers très très fort, très ancré, et donc de pas forcément me donner la contrainte d'une unité au niveau du livre, mais vraiment chaque personnage nous emmène dans son univers très très fort, et donc c'est vrai que on a chaque fois un nouveau livre qui s'ouvre.
C'est ça ce qui est bon aussi, on va y revenir tout doucement, mais chaque personnage correspond à une atmosphère complètement différente. Voilà, on passe dans tous les genres. C'est aussi assez amusant, ça, pour vous. C'est assez jouissif de pouvoir faire un jour un polar, le chapitre d'après, c'est plutôt un roman d'amour, ensuite un conte.
Mais oui, j'ai pris un pied à écrire ce livre assez phénoménal, parce que c'est vrai que j'avais une liberté totale. Et donc, effectivement, de ne pas me poser la question du genre. Et en même temps, c'est vraiment à l'image de la société, parce que à un moment, tous ces personnages se retrouvent dans cette station-service, ils interagissent entre eux, et c'est ça aussi. Je pense qu'on a tous des vies qui sont extrêmement différentes, et chez certaines personnes, leur vie ressemble à un thriller ou un film d'épouvante, et puis chez d'autres, c'est beaucoup plus sucré, beaucoup plus agréable, beaucoup plus rond, parce qu'ils ont vécu moins de drames. Voilà, ça m'intéressait.
Alors, il y a quand même un point commun entre tous ces personnages, ils sont tous un peu border, voire complètement barré. Alors, à chacun son niveau. Hein. Mais c'est un livre quand même sur la folie, non? C'est ça ce qui vous intéressait? Vous vouliez explorer ça?
Alors, je ne voulais pas explorer ça, c'est juste que pour moi, on est tous fous.
Enfin, pas tous autant.
Pas tous autant. Non, après, c'est sûr que pour que ça fasse des histoires...
Ça se voit moins.
Oui. Pour que ce soit romanesque, il faut qu'il se passe des choses. Et donc, forcément, à partir du moment où il se passe des choses, c'est sûr qu'on va vers la folie. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'aller flirter avec la limite, de voir jusqu'où je peux tendre le fil sans qu'il ne se casse, et d'aller explorer la folie de chacun. Mais je crois que si chaque personne se laissait vraiment aller, on aurait des récits de fous chez tout le monde.
C'est ça en fait, c'est pas tellement des gens complètement fous dès le départ, c'est des gens plutôt normaux, lambda. Puis tout à coup il y a un truc qui bascule, mais vraiment trash quoi.
Ouais. Ouais.
Il y a des meurtriers, il y a des choses comme ça.
Il y a du sexe, pas mal, effectivement. On sent les pulsions. Il y a du meurtre, évidemment. Il y a aussi la voix du cheval qui vient aussi donner son avis et son regard là-dessus, et qui lui aussi a sa forme de folie. Ouais, ça, on a de la comédie. On a aussi pas mal d'histoires qui sont assez drôles, mais justement parce que les personnages sont bien barrés.
On se quitte un petit instant, on respire et on se retrouve dans la folie Dieudonné tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Adeline Dieudonné qui revient avec Kérosène aux éditions de l'Iconoclaste. Ça se passe dans une station-service, on voit des personnages qui se croisent là-dedans et on suit chacun de ces personnages les uns après les autres. Il y en a quoi? Il y en a une bonne quinzaine, quelque chose comme ça, Adeline Dieudonné?
Ils sont exactement 14.
On parlait de la folie de chacun d'eux juste avant la pause, une folie qui va aussi avec une certaine violence. Et tout à l'heure, en début d'émission, je vous demandais si vous aviez réussi à vous libérer justement pour écrire ce deuxième roman avec cette pression qu'il y a après le succès de La Vraie Vie, votre premier roman. Et on voit que oui, parce que vous lâchez tout, quoi. C'est-à-dire que la violence, c'est parfois même hardcore, quoi.
Oui.
Est-ce que vous retenez les mots parfois?
Pas du tout, jamais. Jamais, mais c'est vrai que alors parfois il y a des histoires qui sont difficiles à écrire, ça c'est sûr, où je me demande jusqu'où je peux aller, ou parfois même il y a des histoires qui allaient plus loin dans ma tête, et puis au moment de les écrire, j'ai ramené un petit peu. Ça oui, ça c'est par exemple pour Victoire. J'étais incapable d'écrire l'histoire avec la violence que j'avais dans la tête, donc j'ai ramené un petit peu.
Et je pense c'était plus violent dans votre imaginaire. C'est pas le fait d'écrire qui vous emporte vers cette violence-là.
Oui, parfois si, mais là en l'occurrence, Victoire, c'est peut-être la seule sur laquelle j'ai un tout petit peu retenu les coups parce que elle est déjà extrêmement dérangeante comme ça, donc je pense que c'était bien. Mais sinon, oui, je me laisse surprendre aussi. Par exemple, l'histoire de Loïc, c'est vraiment en écrivant que d'un coup, je me dis, ah, il y en a deux qui sont en train de baiser sur une aire d'autoroute. Et il y a une vieille dame qui apparaît et qui est en train de les mater.
Qui les regarde en mangeant des cerises.
En mangeant des cerises, ouais. et ça,
c'est,
je me surprends.
C'est très cru. Hein. Ouais. C'est très cru. Parfois, c'est donc très violent, un peu trash, mais c'est toujours très drôle aussi. Enfin, pas toujours, mais souvent, c'est drôle. C'est cette violence-là qui vous force à partir aussi dans le côté drôle pour désamorcer tout ça, ou alors c'est l'inverse, ça commence par une sorte de comédie et qui devient tellement burlesque qu'il y a de la violence qui s'en dégage.
Mais je crois que c'est un petit peu les deux c'est des allers-retours entre les deux. Voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où je ressens le besoin de désamorcer, et puis parfois c'est simplement le ton du personnage, parce qu'il y a pas mal d'histoires qui sont écrites à la première personne, et donc c'est aussi les personnages parfois qui ont leur point de vue qui rend la situation drôle, parce que voilà, ils ont un point de vue sur ce qui se passe qui est décalé.
Ben justement, c'est un bon exemple. Je voulais qu'on parle de Victoire, qui oui, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment très drôle et à la fois c'est la plus terrible sans doute et peut-être même la plus triste. Elle nourrit une haine terrible et durable contre les dauphins. Victoire, elle les déteste au point de ne même jamais prendre de douche parce qu'elle a entendu parler de la mémoire de l'eau. Vous racontez un peu cette histoire, le début en tout cas.
Oui, donc on a cette jeune femme qui est mannequin, elle, dans son appartement new-yorkais, et effectivement elle ne supporte pas les dauphins. Et donc elle ne se nourrit que de lait parce qu'elle ne veut plus boire d'eau. Elle boit que du lait cru. Et du thon, parce qu'elle a entendu parler aussi du fait que quand on pêchait le thon, souvent il y avait des dauphins qui étaient pris dans les filets, et qu'a priori quand on mange du thon, on sait que par ricochet on tue des dauphins. Et donc elle ne les supporte pas, et d'ailleurs elle espère peut-être qu'un jour ils vont disparaître. Et son rêve, c'est d'assister à un Grindadrap.
Ça existe pour de vrai, c'est quoi ?
Ah oui, ça existe pour de vrai, c'est abominable. Ouais, okay. Oui. C'est une vieille tradition. Bah, c'est une tradition ancestrale. Alors je crois que ça existe au Japon aussi, mais là, en l'occurrence, c'est dans les îles Féroé. On rabat tout un banc de dauphins ou de globicéphales vers une baie, vers une plage, et c'est vraiment toute une horde. Donc c'est 100-150 individus. Et sur la plage, il y a les gens qui sont là, des hommes, des femmes, des enfants, et qui les égorgent tous. Et donc la baie se remplit de sang, donc la baie devient rouge et visqueuse, et il y a les cris de ces animaux qui résonnent dans toute la baie. C'est absolument abominable. D'ailleurs, il y a un documentaire qui avait été fait là-dessus, The Cove, qui racontait ça, et c'est une vraie tradition, et ça arrive chaque année, plusieurs fois. Là, dans les îles Féroé, on assiste vraiment à des massacres de ces animaux qui sont, si pas plus intelligents que nous, en tout cas aussi intelligents et aussi sensibles, et qui ont autant... Enfin, c'est juste d'une barbarie atroce. Et donc, Victoire, comme elle déteste les dauphins, elle rêve d'assister à ça.
Mais elle a quand même une... Je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais en tout cas, elle a une raison. Pour faire ça, qu'on ne dévoilera pas, bien entendu. Mais ça, je crois, cette raison-là, je crois que c'est tiré d'un fait divers. En tout cas, ça existe aussi.
C'est déjà arrivé.
Mais bon, oui, on ne peut rien dire. Donc, vous lirez le livre. Alors, vous êtes quelqu'un de très sensibilisé à l'écologie. Je me rappelle qu'en 2018, dans vos tournées en Europe, pour parler de votre livre ici et là, et un peu partout en France, vous refusiez de prendre l'avion, donc vous tapiez des Bruxelles-Rome, Bruxelles-Milan, bon bref, partout en avion. Or, ce livre s'appelle...
En train.
Ce livre s'appelle Kérosène. Le décor, c'est une station-service et il y a l'apparition régulière d'un Hummer, c'est-à-dire la voiture à peu près la plus polluante du monde. C'est en fait aussi une forme de violence que vous vouliez installer avec toute cette pollution partout, là.
En tout cas, c'est peut-être une façon de critiquer. Mais même si c'était pas la volonté, parce que oui, bien sûr, j'ai des vraies convictions écolo, et c'est vrai que dans ma vie, j'essaye de mettre en place un maximum de choses pour pour participer le moins possible à la destruction de notre planète, même si je sais que voilà, on fait pas de miracle. Mais donc, c'était pas une critique. Et en même temps, oui, je suis fascinée par les gens qui conduisent comme ça, mais juste pour leur plaisir, pas parce que c'est nécessaire dans leur métier. Enfin, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais donc, ouais, il y a le Hummer, il y a la station-service, et en même temps, c'est une espèce de métaphore de notre monde, de notre société. C'est de nouveau les rapports de prédation sur le monde sauvage et sur le monde qui nous entoure. Et c'est pas un hasard si la station-service d'ailleurs est entourée de forêts. Parce qu'on ne sait pas très bien lequel va finir par manger l'autre.
Et en fait, ça correspond bien aussi à votre style, c'est-à-dire que dans cette façon de conduire une grosse voiture, alors qu'on n'en a pas besoin du tout, une grosse voiture qui fait plein de fumée et tout, il y a quelque chose d'absurde aussi. Et c'est un peu ça, vos romans. C'est-à-dire que c'est des situations réelles, plutôt réalistes, et puis il y a toujours cette petite pointe d'absurde surréaliste, j'ose pas dire surréaliste belge, mais est-ce que vous êtes nourri à ça aussi ?
Oui, bien sûr, mais ça je crois que c'est même complètement inconscient, ça fait complètement partie de ma culture, et donc c'est rigolo. Moi je trouve ça, toujours ça drôle de voir effectivement le regard des lecteurs français ou des journalistes français sur mon travail, parce que oui, pour moi c'est juste tout à fait normal ce surréalisme, enfin c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de tendre le fil sans le casser, mais de voir jusqu'où on peut flirter avec la limite. Ouais, mais il y a bien sûr un héritage belge là-dedans.
Il y a un personnage qui a un cochon domestique,
ouais,
et qui tous les soirs fume des joints et mime l'égorgement de son cochon. Ça...
en pleurant.
Ça va pas ou quoi?
Eh ben, vous savez que cette idée m'est venue en regardant un documentaire, je crois que c'était de France 5, super beau documentaire, dont j'ai oublié le titre évidemment, mais où on interviewait des gens qui avaient travaillé dans les abattoirs, et dans lequel d'ailleurs il y avait Joseph Pontus qui
écrivain qui nous a quitté il y a pas longtemps, qui avait écrit un livre très fort sur son expérience dans les abattoirs.
Ouais, à la ligne. Et je voyais ces gens, mais traumatisés, mais vraiment profondément. Qu'en fait, la violence que eux exercent au quotidien sur les animaux dans les abattoirs, en fait, elle les détruit eux aussi. Et j'étais fascinée par ça. Je me suis dit, mais oui, je voulais imaginer un personnage. Comment est-ce qu'on fait quand on rentre chez soi, qu'on a égorgé des animaux toute la journée? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait de cette folie? Et je me suis dit, ben oui, il doit avoir un animal, un cochon en l'occurrence, qui est son espèce de Bouddha. Vous savez, les Bouddhas qu'on caresse et qui prennent toutes les énergies négatives. Ben, sur laquelle il va pouvoir pleurer et effectivement mimer cette, et en même temps il ne le fait jamais de l'égorger, mais
ah, il fait peur lui.
Il fait bien peur.
Il y a toutes les formes de récits, tous les genres, on l'a dit, et même un conte à l'ancienne, alors que la plupart des autres histoires sont plutôt réalistes et modernes. Il y a l'histoire d'Antoine qui ressemble un peu à un conte scandinave, mais peut-être je me trompe, moi je l'ai lu comme ça, avec notamment un lac qui parle au personnage.
Oui.
C'est inspiré d'un autre conte que vous aviez lu, vous vouliez rentrer dans cet univers-là, un peu onirique et tout ça ?
Non, pas du tout, mais ça par contre c'est quelque chose que j'ai extrait du roman que j'étais en train d'écrire et que j'ai donc laissé de côté, mais il y avait ce décor avec effectivement entre le Bosenhorn et le Piscal, qui sont les deux montagnes dans lequel ce lac va se nicher, et j'avais très envie de ça, de la montagne avec cet imaginaire un petit peu fantasmagorique, et c'est vrai la folie de ce gars qui pense que le lac lui parle et lui dicte sa volonté. Mais voilà, de nouveau je crois qu'on est il y a beaucoup de gens qui entendent des lacs parler.
Ah bon? Mais celui-là c'est pas un lac très sympa en plus. Bon bref, Kérosène, c'est votre nouveau livre à l'Iconoclaste, restez avec nous Adeline Dieudonné, dans un instant c'est le livre culte, Flaubert, à tout de suite.
La Voix est livre, Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est livre, toujours avec Adeline Dieudonné. Il est l'heure du livre culte. J'ai choisi un classique de classique aujourd'hui, 19e. Mais quelle modernité, Bouvard et Pécuchet de Flaubert, publié en 1881. Deux andouilles, deux imbéciles qui se rencontrent par hasard dans Paris. Coïncidence, ils sont tous les deux copistes. Ils recopient donc inlassablement des documents officiels. Ils se rendent compte qu'ils aimeraient vivre à la campagne. Alors, ils partent tous les deux. Ils décident de se cultiver en s'intéressant à tout, en lisant des ouvrages de vulgarisation dans tous les domaines, chimie, agronomie, mathématiques, tout, C'est très louable, mais ils survolent seulement. Et forcément, quand ils essayent d'appliquer, c'est la catastrophe. C'était un portrait de son époque pour Flaubert, mais ça ressemble quand même pas mal à notre période où tout le monde se prend pour un grand médecin ou un spécialiste d'immunologie et d'épidémiologie. Voilà ce qu'écrivait Flaubert dans une lettre à propos de ce roman. « Je médite une chose où j'exhalerai ma colère, où je me débarrasserai enfin de ce qui m'étouffe. Je vomirai sur mes contemporains le dégoût qu'ils m'inspirent. Dussé-je m'en casser la poitrine, ce sera large et violent. » Paf ! Malheureusement, Beauvoir et Pécuchet est resté inachevé. Il a été publié après sa mort. Le début est bien là, lui. Et le voici, lu par Philippe Dussault.
Beauvoir et Pécuchet. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalé en ligne droite, sonnant aux couleurs d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge, deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et, sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin « Bouvard ». Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. Ah, c'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considérèrent.
C'était la première page de Bouvard et Pécuchet de Flaubert, lu par Philippe Dussault. Merci à lui. Et vous, Adeline Dieudonné, vous avez un livre culte ? C'est pas obligé, hein ?
C'est toujours très compliqué d'en citer un seul, évidemment, il y en a beaucoup. Mais je crois qu'il y en a quand même un sur lequel je reviens assez souvent, c'est Thérèse Raquin de Zola. Je ne sais pas pourquoi, c'est un livre qui m'a profondément marqué, mais de nouveau, hein, c'est sur la folie et sur qu'est-ce que ça fait de tuer quelqu'un et comment est-ce que ça nous abîme, comment est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sous peine d'être maudit, marqué du sceau, oui, d'être damné. Voilà, si je dois en citer un, pour l'instant, c'est celui-là. Mais si vous me reposez la question demain, ce sera un autre.
Je n'y manquerai pas. Et à suivre, visite de bibliothèque, nous partons en voyage. Avec sac à dos, direction le guide du routard. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre de Gavins Clemente Ruiz, auteur d'un troisième roman, La Divine Comédie de nos vies, chez Albin Michel, et secrétaire général du Guide du Routard, et c'est là-bas que nous le rejoignons. Bonjour Gavins.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Au guide du routard, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le générique de l'émission, mais on y entend Renaud qui dit une phrase incroyable. Il dit « Ouvrir un livre quand c'est une belle histoire, c'est faire un grand voyage pour pas un rond ». Et alors là, on est dans votre bureau. On va passer tout à l'heure dans la grande collection du guide du routard, dans la grande bibliothèque. On est là évidemment parce que le guide du routard, c'est un livre, mais aussi parce que la littérature, c'est un voyage et un voyage, c'est la littérature. On est bien d'accord.
Mais là, je crois qu'on est complètement dans le sujet de l'émission. C'est exactement ça, voyager à travers les mots. C'est ce qu'on essaie de faire. On se rend compte qu'on n'a pas d'image dans les routards. Donc, il faut avoir une variété de synonymes, d'expressions. Et alors, mon livre préféré, il est là.
Là, on est dans votre bureau. Il y a évidemment plein de guides du routard partout, mais pas que.
Et on a le dictionnaire de synonymes, mots de sens voisins et contraires de Henri Berthaud du Chazeau, publié chez Gallimard en quarto. Ça fait beaucoup, beaucoup de pages.
Alors, restaurant, par exemple.
Restaurant. on va aller à restaurant. J'adore ce livre parce que tout d'un coup, on a plein de synonymes qu'on n'aurait même pas imaginé. Alors, je tourne les pages tout doucement. Hop, hop, hop. Enfin, bon, j'essaie de me dépêcher quand même. Restaurant.
Et on trouve ça sur les ordinateurs. Préférez-vous aller chercher là-dedans?
J'aime toujours le contact du papier. Là, c'est un papier Bible. On a l'impression de feuilleter une Pléiade presque. Hein. C'est assez magique. Restaurant. Attention, vous êtes prêts? Auberge, buffet, cabaret, cafétéria, cafeterie, cantine, crêperie, fast-food, restauration rapide, feu de bois, friterie, gargote, grillade, grill-room, hôtellerie, messe. Ça, messe, c'est sympa, ça aussi. Pizzeria, on a oublié, popote, rastel. Ah, méridional. Relais, restauration, restaurante, rôtisserie, self. Libre-service, self-service, steakhouse, bref, taverne, trattoria, c'est un bouillon.
Vous les avez déjà tous utilisés une fois ou
moins? Plus ou moins.
Pour des critiques?
Bouillon, tournebride, boui-boui, alors ça j'aime beaucoup.
Ah oui, j'aime bien aussi.
Je rêve un jour de faire le guide des boui-boui, pourquoi pas, ça arrivera peut-être.
Bah, c'est parfois un peu ça qui est du retard de temps en temps.
Bah, c'est vrai qu'on a une gamme de prix qui est très variée et qui va du petit bistrot pas cher avec le bon rapport qualité-prix, c'est toujours ça qu'on cherche. Et le bon rapport qualité-prix se trouve à n'importe quel niveau, ça peut être le petit menu à 8 euros le midi, entrée, plat, dessert qu'on trouve dans certains bistrots de pays, jusqu'au resto de jeunes chefs qui vient d'avoir une étoile ou qui est en devenir et qu'on va essayer de dénicher. C'est toujours ça qu'on essaie de trouver. On essaie de trouver la variété de tous ces synonymes dans les adresses qu'on cherche.
Et je vois que vous avez une grande figurine du fameux guide du routard, c'est-à-dire cet homme avec un sac à dos en forme de globe terrestre.
Oui, dessiné par Solé. Autrefois, c'est lui qui a dessiné le symbole, le logo du routard qu'on retrouve, alors qu'on agrémente d'un petit vélo pour les guides consacrés au vélo. Là, c'est la Vélodyssée. Ou alors, on lui met une famille quand c'est les guides sur la famille, ou quand on part faire de la randonnée, on lui met des chaussures un peu plus épaisses. Mais c'est vrai que oui, on a cette.
Mais est-ce qu'il existe ce sac?
Un jour, j'en ai vu un énorme en bas, mais il a disparu depuis. Mais en effet, il a existé et on l'avait rembourré de plein de choses et on s'est promené avec ce guide et les déménagements ont fait qu'il a disparu.
Mais alors justement, c'est une question que je me pose. Un journaliste du routard, quand il est en train de regarder un hôtel sur la terrasse d'un restaurant, etc., est-ce que vous écrivez la critique sur le lieu ou est-ce que vous vous dites « non, je vais me faire gauler ». Je ferai ça plus tard, j'essaye de retenir au maximum.
J'écris tout de suite parce que les meilleurs, on n'écrira pas plus tard, on oubliera des choses. Sur le moment, on capte des mouvements, on capte des sons, on capte des odeurs, on capte des bruits, des sensations, même un cadre. Hein, c'est la table en formica, ça va être le repli du lit, le rebond du lit dans une chambre quand on va aller visiter la chambre à coucher. Ça va être vraiment plein de petites choses où l'oiseau qui chante toujours un air d'antan, enfin voilà, c'est plein de petites choses et ça, je note tout parfois, c'est un peu gribouillé, hein, c'est des petits gribouillis, c'est des gribouillamini comme dirait mon fils, et donc on note plein de choses et comme ça, ça va, bah, je sais pas, je vais peut-être pas tout utiliser, hein, tant mieux d'ailleurs parfois, mais je fais le je garde le sel de tout ça, je garde le meilleur de tout ça et ça sera publié dans Routard ou ailleurs.
Ça donc. Fait une vingtaine d'années que vous êtes au Routard,
exact, ouais.
Vous faites aussi depuis quelques années de la télé. Est-ce que vous avez déjà été reconnu dans un hôtel ou un restaurant?
Une fois à Madagascar, dans un restaurant, je parlais avec des gens, j'étais assis et le monsieur me questionnait, il me disait « mais tu travailles dans quoi toi ?» Et là je lui dis « ah, je travaille dans l'édition, mais dans quel genre d'édition ?»« Ah, l'édition, des guides, mais tu ne ferais pas des guides de voyage ?» Et là je lui dis « si. » Il me dit « tu ne travaillerais pas au Routard ?» Et je lui dis « et si ?» Je lui dis « mais comment tu sais ?» Il me dit « ça fait 2 mois que je suis ici, tous les soirs je vois ta photo, je vois ta tronche sur la photo, et quand tu es rentré dans le resto, j'ai su que c'était toi. » Et là je me dis « waouh !»
C'était assez. Ça mais c'était le patron?
Non, c'était un client.
Ah,
un client français qui était là à Madagascar.
Donc ça
arrive. Dernier jour. Donc c'était assez étrange.
Oui, parce que vous devez être incognito et tout.
Bah, on ne se présente pas. Donc moi, je m'assois n'importe où et je suis comme tout client qui peut venir dans une adresse.
Je suis sûr que maintenant, vous vous déguisez, vous mettez des perruques et des moustaches.
J'ai un masque maintenant, c'est beaucoup plus simple.
juste là, je vois tout un tas de guides du routard. Ouais. Il y a Alsace, Auvergne. Bordelais, Landes, Lot et Garonne, ouais. Ardèche, Drôme. Comment vous découpez la France
quand vous faites les secteurs?
Alors, en fait, on n'a pas du tout voulu suivre.
Ardèche, Drôme, ça ne veut rien dire.
Bah si, et Nicolas, ça veut dire quelque chose. On s'inspire du terrain avant tout. On n'a pas voulu aller dans les régions aujourd'hui ne veulent plus dire grand-chose. Donc, on essaye justement, nous, d'aller au plus proche du terrain. Et comme on a beaucoup de choses à dire, on essaye de les délimiter par des noms qui étaient parfois des régions d'antan. L'Anjou, par exemple.
Ah,
L'Anjou.
Chez moi.
On voit un petit restaurant. Le Toureil, par exemple, en Anjou, là, je vous conseille, que j'adore. C'est au bord de l'eau, c'est au bord de la Loire, c'est délicieux. Il y a plein de régions comme ça, mais on essaye de coller, bien sûr, le plus possible à la réalité du territoire. Donc, on a les Charentes, on a les châteaux de la Loire, on a la Lorraine, on a le Lot, Aviron, Tarn. Voilà, on essaye de coller le plus possible au terroir.
Et est-ce qu'on vous appelle pour vous dire « mais vous n'avez jamais parlé de moi alors qu'il est super mon petit resto, vous ne voulez pas venir le voir ?»
Carrément, on nous appelle, on nous écrit, on reçoit plus de 10 000 courriers, lettres ou mails par an et on reçoit des coups de téléphone en effet pour nous dire « moi j'ai une petite adresse là que je viens d'ouvrir parfois, ça vient d'ouvrir ». Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on note tout et on va aller voir les adresses la fois suivante quand on va aller visiter le département, la région. Et donc on note toutes les informations qu'on nous donne, ça peut être même un conseil de lecteur. Hein. Souvent les routards aiment parler aux routards, c'est ce qu'on dit à la fin du guide. Et donc on a toujours des mails qui arrivent ou alors qui nous arrivent par la poste, des lettres pour nous donner des bons tuyaux. C'est ça aussi le côté routard. On transmet, il y a un état d'esprit copain, on se donne le bon plan pour aller visiter une adresse. Donc nous, on fait ça, on va aller voir. Parfois, on est ravis, parfois un peu moins. Mais c'est vrai que nous, on va aller voir l'adresse. Il y a le style routard qui va s'adapter ou pas. On va voir si ça correspond à nos critères, le rapport qualité-prix, toujours. L'accueil, le cadre, etc., bien entendu. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un état d'esprit qui corresponde à ce que nos lecteurs aiment trouver dans nos adresses. Et quand on a trouvé une bonne adresse, c'est finalement assez simple, on le sent tout de suite. Ça va être un bon resto, ça va être un hôtel sympa. Le propriétaire joue beaucoup aussi. L'accueil, le cadre, bien entendu, et toujours le rapport qualité-prix.
Vous nous avez dit, il y a Philippe Glohagen qui est là dans son bureau, il a une grande collection et il a le tout premier guide, on peut aller voir ?
On va aller le voir tout de suite.
Super.
Voilà Philippe. Alors Philippe, j'ai dit que tu avais dans ton bureau l'édition numéro 1 du Routard. Est-ce qu'elle est bien là ou pas ?
Oui, absolument. J'ai plaisir à vous la montrer, même si d'un point de vue radiophonique, c'est pas très très...
Ah si, c'est justement ça qui est rigolo.
On veut bien.
Ouais, regarde. Là, voilà,
ah oui,
avec une couverture très originale, puisqu'il n'y avait pas à l'époque le bonhomme du Routard, et c'était un canyon un peu à l'américaine, et qui était un peu le symbole de l'exotisme et du voyage.
Ah oui, c'est pas du tout la maquette originale, j'avais jamais vu.
Non, jamais.
Enfin, si, c'est la maquette originale, mais c'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui.
1973, et il y avait quand même sur 300 pages une vingtaine de pays. Donc c'était quand même très léger, New York 4 pages, c'était très très résumé. Mais disons que la thématique et les valeurs du Routard existaient déjà, la notion de liberté, de voyage individuel, le respect des autres, de se dire que lorsqu'on est à l'étranger, l'étranger c'est nous. Toutes les thématiques sur les droits de l'homme, sur le respect des populations étaient déjà dans les gènes de ce premier guide du Routard.
Je renvoie les auditeurs à la magnifique émission que Christophe Fondelat vous avait consacrée, où on apprend tout sur votre histoire et sur l'histoire du guide du Routard. Mais est-ce que vous pouvez quand même, dans notre petite séquence d'un quart d'heure, là, nous rappeler quel avait été le déclic pour le guide du Routard ? Comment ça s'est passé ?
Alors au départ, écoutez, je voulais faire votre métier, je voulais être journaliste et j'adorais écrire. Et donc, j'ai commencé, étant étudiant, à proposer des piges dans divers magazines, souvent des petits journaux. Ça a fonctionné. J'ai eu vraiment mon petit succès à tel point que, assez rapidement, un rédacteur en chef assez célèbre, Jean-François Bizot, le patron d'Actuel, m'a proposé de me présenter quelques éditeurs. Ce qu'il a fait au bout de quelques mois, et malheureusement, le Routard a commencé avec un accouchement au forceps, puisqu'il a été refusé par 19 maisons d'édition. Mais c'est vrai que Ondelat en parle dans son émission.
Mais pourquoi il a été refusé ?
Parce que c'était l'après 68, il était positionné d'une façon particulière. On se disait, ces jeunes qui veulent voyager, ils refusent la société, ils en ont marre. Ce qui était complètement faux, c'est-à-dire que nous, on avait envie de découvrir le monde, de découvrir comment vivaient les gens. Il n'y avait aucune connotation politique, refus de la société. Et c'est venu progressivement après, lorsque le Guide du Routard a été édité chez Hachette. On a acquis nos galons, si vous voulez, parce qu'on était édité par une maison prestigieuse.
Merci beaucoup, Philippe Gloagen, et merci beaucoup, Gavins, Clément Thierry.
Merci, Nicolas.
Retour en studio, et je rappelle le titre du dernier roman de Gavins, Clément Thierry, La Divine Comédie de nos vies. Et chez vous, Adeline Dieudonné, ils sont rangés comment, les livres? Vous êtes à Bruxelles?
Je suis à Bruxelles. C'est n'importe quoi.
Comme beaucoup de gens.
Oui, moi je rêve quand même du jour où je pourrais avoir une vraie bibliothèque dans laquelle je... Mais pour l'instant, là je suis un petit peu en transit. Enfin, j'ai l'impression que je ne m'installe jamais vraiment quelque part. Donc j'ai trois endroits où je range mes livres. Il y a une petite bibliothèque dans la cuisine, voilà, où il y a les bouquins de cuisine et quelques BD. Mais c'est très important pour moi, les bouquins de cuisine.
Ah, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pièces de collection, des livres anciens?
Alors, j'ai une pièce de collection qui est le livre dans lequel j'ai appris à cuisiner, qui s'appelle « La cuisine est un jeu d'enfant ». C'était vraiment un grand bouquin de cuisine pour les enfants. Et d'ailleurs, il est tout taché il y a des taches de chocolat partout dedans, parce que c'est avec ça que j'ai appris la pâtisserie. Et alors, la cuisine, oui, c'est assez classique. Après, j'ai une bibliothèque dans mon salon, où là, c'est des vieilles caisses de vin que j'ai vissées ensemble et peintes en noir.
Classique.
Voilà. Et il n'y a aucun ordre. Mais moi, je sais exactement où se trouve quel livre.
Ah oui, voilà.
Mais je n'ai aucune... je ne classe pas ni par maison d'édition, ni par auteur, ni par ordre alphabétique, rien du tout.
C'est là où il y a de la place?
C'est là...
Quand vous en rajoutez un?
Non, là, il n'y a pas de place. Il y a de la place nulle part. Donc, allez. Pour l'instant, voilà, ça s'empile aussi. Et ça s'empile surtout dans ma chambre. Donc, j'ai mon bureau qui est... Enfin, j'ai un petit espace bureau qui est dans ma chambre. Et là, c'est des vieilles caisses de pommes qui servent de bibliothèque. Et là, c'est les livres qui sont plus essentiels pour moi, que je veux garder à portée de main quand je travaille, parce que j'ai souvent besoin d'aller piocher. Et là, par contre, il y a la pile de livres à lire qui n'en finit pas de grandir.
La colonne.
La colonne.
Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Retour de La Voix et Livre, il est l'heure de rendre visite à un libraire, une libraire, puisque nous partons chez Marie-Ève Charbonnier à Saint-Mandé. Bonjour Marie-Ève Charbonnier.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir dans la belle librairie Parole de Saint-Mandé. Vous m'avez dit, j'ai un gros coup de cœur, je peux faire toute la séquence dessus. Mais j'ai dit, c'est bien si on en a deux quand même. Et donc, vous en avez quand même un autre.
Oui.
Mais on va passer beaucoup de temps sur le suivant. Mais on commence par... Peter Swenson, 8 crimes parfaits chez Gallmeister.
Oui, c'est un gros coup de cœur quand même. 8 crimes parfaits donc, chez Gallmeister. Alors, ce qui est très sympa dans ce livre, c'est que d'abord, ça met en scène un libraire. Donc forcément, ça parle. Un libraire spécialisé en romans policiers qui, dans sa jeunesse, a tenu un blog sur lequel il a mis en ligne un article qui parle des 8 crimes parfaits dans la littérature policière. Voilà. Et évidemment... Il y a des crimes qui se passent et qui sont plus ou moins le début de cette liste. Donc, il y a une enquête de fait par une jeune femme du FBI. Et c'est raconté à la première personne par ce libraire. On finit par se demander s'il n'a pas lui aussi quelque chose à se reprocher. Donc, c'est assez bien fait.
Ça serait un peu gros quand même de mettre ces meurtres en ligne.
Mais il y a tous les ingrédients du roman policier à énigmes, comme les Agatha Christie, enfin, tous ces vieux livres qu'on adorait. Et en plus, il y a plein de références à des bouquins qu'on n'a qu'une envie, c'est de reprendre et de relire.
Et puis alors, c'est Gallmeister, c'est-à-dire toujours une couverture parfaite.
Non, mais la
très
couverture,
sobre, très chic.
Elle est magnifique avec ce charou qui est dans le roman, qu'on voit passer. Et c'est vrai que la couverture...
Il marche sur l'ombre d'une fenêtre, comme
ouais,
ça.
La fenêtre de la librairie. Voilà, ça donne envie d'avoir un chat ici.
Une librairie, c'est une fenêtre, finalement. Pardon,
c'est
je fais de la poésie. Alors,
Donc, on a dit 8 crimes parfaits chez Gallmeister de Peter Swanson. Mais votre énorme coup de cœur du moment, vous m'avez dit tout à l'heure que vous le vendiez par palettes entières parce que vous le donnez à vos clients.
Je le brade.
Vous avez mis la petite fiche coup de cœur dessus, d'ailleurs, de la librairie.
Ouais, c'est vraiment un super, super, super livre qui mêle en plus plein d'ingrédients. Donc, tout le monde peut y trouver son compte. Ça raconte l'histoire.
Attendez, on n'a pas donné le titre. Ah, Une maison sur l'eau.
Une maison sur l'eau de Emuna Elon. Et c'est publié chez Albin Michel. Alors, Emuna Elon, c'est une autrice israélienne assez connue, mais c'est son premier livre qui est publié en France. Et franchement, ça donne envie de connaître les autres. Ça raconte l'histoire d'un auteur israélien. Auteur à succès, qui a une soixantaine d'années, il vit en Israël, il traverse le monde pour présenter ses livres et parler à ses, rencontrer ses lecteurs. Il y a un endroit où il ne va pas, c'est Amsterdam, parce que sa maman lui a interdit d'aller à Amsterdam.
Sans raison.
On va le savoir en lisant le livre. Donc, voilà,
au début, on ne sait pas.
Non, au début, on
sait pas. Et lui, il ne le sait pas.
Et lui non plus.
D'accord.
Et donc, voilà, mais sauf qu'un jour, sa maman décède. Et il est de nouveau invité à Amsterdam. Et là, sa femme lui dit, écoute, peut-être que maintenant, on peut quand même y aller. Donc, il hésite un peu, mais ils y vont. Donc, ils se rendent à Amsterdam. Il fait sa rencontre avec ses lecteurs. Tout se passe très, très bien. Et ils vont, ils font un peu de tourisme et ils vont au musée juif, le musée de l'histoire juive à Amsterdam. Donc, voilà. Et sur les murs de ce musée, il y a des films qui sont projetés. Donc, il s'assied, il regarde. Et un de ces films met en scène sa maman, son papa, avec une petite fille qui est sa sœur, c'est sûr, et la maman tient un bébé dans ses bras qui n'est pas lui parce qu'il ne se reconnaît pas. Voilà. Donc le film a lieu dans les années 30-40, juste avant la guerre. Mystère. Donc il rentre chez lui. Il commence à mener l'enquête. Et en fait, le livre, là, je vous raconte les 20 premières pages.
Oui, oui, d'accord.
Tout le livre, c'est cette enquête. Alors lui, il sait tout de suite la réponse. En fait, ce qui est fascinant, c'est que l'autrice arrive à nous tenir en éveil pendant, enfin, et vraiment en suspense jusqu'à la fin du livre. Parce qu'en fait, il mène l'enquête et il retourne à Amsterdam, il retourne sur les traces de sa famille et il raconte, il en fait un livre. Et on a aussi tous les affres de l'écrivain. Donc c'est l'écrivain qui écrit sur lui, qui retourne sur les traces de son passé, qui cherche. Et il y a une déambulation dans la ville qui est absolument incroyable. On n'a qu'une envie, si on connaît, c'est d'y retourner. Si on ne connaît pas, c'est à mon avis d'y aller. Toute une relation avec le passé, bon, ça se passe essentiellement pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est toute cette histoire. Et on apprend plein de choses sur les Juifs, la façon dont ils ont été traités. Enfin, vraiment, c'est une merveille.
Et c'est validé par Amos Oz. Il y a une petite phrase d'Amos Oz sur la couverture. Émouvant et fascinant, Amos Oz, qui était le grand écrivain israélien, qui est peut-être un double littéraire en fait, du héros ou du narrateur.
Je ne sais pas.
Peut-être. Emuna Elon, en tout cas, Une maison sur l'eau, c'est chez Albin Michel. Ouais. Et on a dit 8 crimes parfaits chez Gallmeister de Peter Swanson. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci beaucoup, Nicolas.
À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1. Et dans un instant, on rejoint Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous avez choisi un roman qui s'appelle « Léon et Gustave, au cœur de la mine » de Sophie de Mühlenheim.
Oui, nous sommes à la fin du 19e siècle dans une cité minière du nord de la France. Léon va bientôt avoir 12 ans. Il est fils et petit-fils de mineur. Pour lui, l'avenir s'est tout tracé. Il sera forcément lui aussi mineur. Mais Léon va à l'école, il est bon élève, il sait lire et écrire, contrairement à son père, à son grand-père. Il lit beaucoup d'ailleurs, les livres que lui prête son instituteur et le journal dans lequel il suit avec passion l'avancée des travaux de la Tour Eiffel. Oui, on est justement à cette époque, au début de la construction de la Tour Eiffel, et à mesure que la construction avance, le rêve de Léon grandit, il veut devenir apprenti dans les ateliers du grand Gustave Eiffel.
Quel Gustave de Léon et Gustave, en fait.
Et un petit peu, oui, mais bon, ça on le découvrira un peu plus tard. Et son instituteur, Monsieur Lafuté, lui aussi y croit. Il va d'ailleurs voir le père de Léon pour lui confier ses projets. La suite, c'est Balthazar Yacine, élève de CM2 de l'école d'Henri-Raymond à Paris, qui vous la lise.
Je ne parlais pas de ce genre d'avenir. Je pensais plutôt qu'il...
Question.
Léon vous a-t-il déjà parlé de ses projets? Il rêve de travailler avec Monsieur Eiffel.
Ah ça oui, on en a entendu parler. Il n'a que ça à la bouche. La Tour Eiffel par-ci, la Tour Eiffel par-là.
Monsieur Eiffel est très réputé dans son domaine. Si Léon pouvait intégrer ses ateliers pour devenir apprenti, je suis certain qu'il s'y ferait rapidement remarquer. Ne seriez-vous pas fier s'il construisait des ponts et des bâtiments partout en France?
Je peux lui apprendre le métier de mineur sans demander l'aide de personne.
Et alors, est-ce que son père va finir par écouter l'instituteur ?
Alors, pas du tout. Léon a 4 frères et sœurs, sa famille est pauvre et Léon est face à un choix, ou descendre à la mine ou revendre la jument qu'un paysan lui a donnée 2 ans auparavant, une jument qu'il appelle Cachou et qu'il adore, qui justement il va lire les avancées de la construction de la tour Eiffel dans son journal, et à chaque fois il lit les extraits du journal à Cachou. Pour Léon donc, hors de question, il n'enverra pas Cachou au fond de la mine. Il descend donc avec son père, il rencontre une jeune fille de son âge, Marie, avec qui il se lie d'amitié, et c'est un coup de grisou au fond de la mine, ça c'était bien évidemment à prévoir, qui va changer brutalement le destin de Léon. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est un très très beau roman à lire à partir de 10 ans sans problème.
Et on rappelle le titre, Léon et Gustave, au cœur de la mine, de Sophie de Mullenheim, aux éditions Fleuris. Merci Victor.
Merci à vous Nicolas.
Et vous Adeline Dieudonné, est-ce qu'il y a un premier roman, le premier roman qui vous a marqué, c'est quoi ? Tout à l'heure, je vous ai quand même posé la question pour vous prévenir, vous m'avez dit La Comtesse de Ségur, je vous ai dit non ! Tout le monde me répond ça, un autre.
D'accord, un autre, alors je vais avancer un tout petit peu dans les années, vraiment un tout petit peu, j'en vais mes 12-13 ans, et c'est Conan Doyle, Le Chien des Baskervilles.
Ah, t'adores.
Ah oui,
La Lande. Pourquoi ça vous a marqué ?
Eh ben, le suspense, le personnage de Sherlock Holmes et la lande anglaise qui m'a fascinée, qu'on retrouve d'ailleurs pas mal dans Kérosène. Et oui, ben parce que je venais en fait d'une littérature assez classique. J'avais lu La Comtesse de Ségur et Maupassant et que là, je découvrais le plaisir du suspense et du roman noir et de vouloir découvrir qui était l'assassin.
Vous écrirez un jour un whodunit, c'est-à-dire un polar à l'ancienne comme ça ?
J'aimerais vraiment bien. Ouais, en tout cas, un polar, maintenant, je ne sais pas, un polar à l'ancienne. La difficulté de l'exercice, évidemment, c'est qu'il faut être super bien documenté. J'ai écrit une nouvelle qui se passe en 1914 et c'est vraiment pas évident, en fait, au niveau du vocabulaire et d'être cohérent. Mais j'adorerais faire ça, oui.
Kérosène, c'est votre nouveau livre aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup, Adeline Dieudonné.
Merci à vous, Nicolas Caro.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.